Les mystères du Palais-Royal, quatrième partie. Chapitre 7. Le vin doré.
Je n'aime pas les pleurs, dit sèchement le vieux gentilhomme. Allez, je vous reverrai plus tard, quand vous serez devenu sage.
En même temps, il frappa sur la table de chêne avec la crosse de l'un de ses pistolets. Le majordome entra aussitôt.
Emmenez cet enfant, dit le vieillard.
Le valet de confiance sortit avec Hébé. Il la conduisit à une vaste chambre. Cette chambre était tendue de damas d'un rouge sombre et en quelque sorte sanglant. Il y avait pour tout ameublement un lit, une table, un fauteuil et un miroir. Un grand feu brûlait dans la cheminée. Le majordome se retira. Mais quand il sortit, il sembla à la jeune fille qu'elle entendait un bruit semblable à celui que produit un verrou qu'on repousse. Elle alla à la porte. Cette porte se trouvait effectivement fermée en dehors. Plus de doute, Hébé était prisonnière. Il n'y avait pas moyen de se faire la moindre illusion à cet égard. Elle tomba anéantie sur un fauteuil. Ses sanglots redoublèrent avec une violence inouïe. Elle eut un véritable accès de désespoir. Quand ce paroxysme fut un peu passé, elle s'efforça de calmer sa tête et d'imposer silence à ses sanglots convulsifs. Elle y parvint à moitié, et elle se mit à réfléchir sur sa position. Elle se dit que sa captivité ne serait que passagère, car enfin, il était impossible qu'une femme qui devait l'aimer, puisqu'elle avait pris soin de son enfance, l'eût à tout jamais vendue pour quelques misérables pièces d'or. Elle se persuada que la mère Rogome reviendrait bientôt la chercher. Elle réfléchit enfin que dans tous les cas, le mieux était de paraître docile et résignée, sauf à saisir la première occasion qui se présenterait pour s'échapper. Or, cette occasion, selon elle, ne pouvait manquer de se présenter tôt ou tard. Elle se trouvait dans ses dispositions tranquilles quand il se fit un léger bruit à la porte. Cette porte s'ouvrit. Un laquais, accompagné du majordome, lui apporta son dîner. Elle s'assit auprès de la table et elle goûta de quelques plats. Tout était si fortement épicé que leur âpre saveur lui brûlait le gosier. Elle remplit à moitié son verre d'un vin couleur de topaze contenu dans un flacon de cristal. Elle but afin de chercher à calmer sa soif dévorante. À peine avait-elle avalé la première gorgée qu'elle éprouva une sensation étrange. Puis une sorte d'engourdissement lourd et invincible, plus puissant que le plus impérieux sommeil, envahit successivement ses membres et son esprit. Elle finit par se coucher et s'endormir, ou plutôt par s'évanouir tout à fait. Peut-être, et pour notre part nous le croyons, peut-être le vin qui lui avait été apporté contenait-il un narcotique quelconque. Au milieu de la nuit, elle fut arrachée à ce repos factice par une sensation étrange. Elle ouvrit les yeux. La lampe s'était éteinte. Il lui sembla entendre quelqu'un près d'elle. Elle voulut se précipiter hors de son lit. Deux bras vigoureux la saisirent en la contenant. Elle tenta de se débattre. Une vigueur supérieure à la sienne paralysa ses efforts. Elle essaya un inutile appel, mais la voix s'étouffa dans sa gorge contractée. Et d'ailleurs, qui aurait entendu ses cris? Qui aurait pris la défense d'une pauvre fille abandonnée, dans ce château où il n'y avait que de vils esclaves et un implacable despote? Pour la sauver, il fallait un miracle. Un miracle! Comment l'espérer? D'où l'attendre? Le miracle se fit. On dit que dans toutes les agonies violentes, il y a un moment terrible, solennel. Un moment où la vie jette une passagère mais énergique lueur, comme la mèche expirante d'une lampe qui va bientôt s'éteindre. Ainsi, le malheureux qui se noie raidit ses bras crispés pour s'accrocher au saule du rivage. Ainsi, la victime qui se débat sous le couteau de l'assassin arrête une seconde encore, avec une force surnaturelle, le fer homicide qui va la frapper mortellement. Pour s'arracher à cette étreinte qui, de plus en plus violente, meurtrissait ses chairs et paralysait ses membres, pour s'élancer de sa couche, elle fit un dernier effort. Effort suprême dans lequel la vie, prête à l'abandonner, se concentrait tout entière. Sa main défaillante, levée vers le ciel, peut-être pour implorer la protection, rencontra dans les ténèbres les plis lourds des longs rideaux de damas et s'y cramponna machinalement. Grâce à ce point d'appui, elle parvint à donner à son corps, exténué par la lutte,
une vigoureuse impulsion. Elle se sentit rouler dans le vide. Elle entendit un craquement, puis un bruit subit, comme celui qu'occasionne la chute d'un objet pesant, puis un blasphème affreux, un gémissement sourd, un râle étouffé, puis plus rien. En tombant sur le tapis de peau de renard qui recouvrait le plancher de la chambre, Hébé ne s'était fait aucun mal. Seulement, les émotions terribles qu'elle venait de subir, la résistance désespérée qu'elle avait faite, la terreur qui la glaçait encore, lui avaient ôté toute lucidité d'esprit. Peu à peu, elle revint à elle, c'est-à-dire au sentiment exact de sa situation. Alors seulement, elle put commencer à se rendre compte de ce qui s'était passé. Elle était couchée par terre. Un silence profond, une obscurité complète régnait autour d'elle. Seulement, dans le foyer éteint, quelques charbons brûlaient encore et semblaient autant de prunelles ardentes qui la regardaient fixement. Elle se dirigea à tâtons vers la cheminée. Là, accroupie et courbée sur la cendre, elle chercha à ranimer avec son souffle la flamme des charbons expirants. Longtemps, toutes ses tentatives furent vaines. Enfin, elle parvint à faire jaillir quelques étincelles. Elle alla à l'endroit où elle avait laissé sa petite lampe avant de se coucher. Elle la trouva. Elle approcha de ses mourantes lueurs la mèche imbibée d'huile. Quelques secondes après cet instant, elle avait de la lumière. Tremblante mais résolue, elle s'approcha de l'alcôve. Un spectacle terrible, inattendu, saisissant d'horreur, s'offrit à sa vue. Dans l'effort désespéré et convulsif auquel elle avait dû sa délivrance, elle était parvenue à déceler l'anneau de fer qui retenait au plafond le ciel du lit en bois sculpté. Cette lourde charpente et les rideaux épais couvraient presque entièrement l'immense couche. La tête du vieillard, car c'était lui, s'affaissait, immobile et inclinée sur l'oreiller. Ses cheveux blancs étaient ensanglantés. Le sang filtrant entre les lèvres béantes d'une large et profonde blessure coulait sur ses joues et baignait son épaisse et longue moustache. Cette rosée pourpre augmentait avec un clapotement sourd et monotone une petite mare déjà formée. Hébé recula vivement, glacée d'épouvante et reprise d'un nouveau désespoir. Chapitre 8. La fuite. Le vieillard était-il mort ? Hébé l'ignorait. Mais qu'il fût mort ou seulement évanoui, la position de la jeune fille n'en était pas moins affreuse. Dans le premier cas, elle passerait infailliblement pour l'avoir assassinée. Et alors, Hébé finirait comme le malheureux saltimbanque, ainsi que la mère Rougaume le lui avait prédit, afin de vaincre la répugnance qu'elle éprouvait à se séparer d'elle. Dans le second cas, n'avait-elle pas à craindre de la rage furieuse et du désir de vengeance plus que probable du vieillard ? Il ne lui restait donc qu'un seul parti à prendre, la fuite. Mais comment fuir ? D'abord, lui serait-il possible de se retrouver sans guide dans le dédale de corridors, de passages et d'appartements qu'il lui avait fallu traverser pour arriver à cette chambre fatale ? Ensuite, elle n'avait pas oublié que l'entrée du château était défendue par un pont mobile qu'on relevait chaque soir à la tombée de la nuit. Attendre le jour ? Mais les domestiques ne la considéraient-ils pas comme prisonnière ? Certes, ils ne la laisseraient pas sortir sans un ordre de leur maître. Et alors, que deviendrait-elle quand ils apprendraient les sinistres événements qui venaient de se passer ? Hébé voyait le péril partout. Elle n'apercevait le salut nulle part. En présence de tous ces abîmes, elle sentait sa tête s'égarer. Le peu d'énergie qu'elle avait retrouvée fléchissait sous le poids de ses accablantes et confuses pensées. Pendant un moment, elle crut qu'elle allait devenir folle. Elle en était réduite à regarder la perte de sa raison comme le seul bonheur qui pût lui arriver désormais. Elle s'approcha machinalement de la fenêtre. Elle l'ouvrit pour essayer de rafraîchir son front brûlant à l'air glacé de la nuit. Il n'y avait pas de lune, mais le ciel était pur et brillant, comme il l'est souvent dans le nord pendant l'hiver. Bientôt, ses yeux fatigués s'accoutumèrent à la demi-obscurité qui régnait au dehors. Elle crut remarquer qu'il n'y avait guère qu'une vingtaine de pieds d'élévation entre la fenêtre sur laquelle elle était appuyée et le fossé qui se trouvait au bas. En même temps, elle se rappela qu'il n'y avait pas d'eau dans ce fossé. Le talus opposé, elle avait la certitude de l'avoir remarqué, était recouvert de gazon. L'idée lui vint aussitôt que par là, peut-être, il ne serait pas impossible de fuir de cette maison à jamais maudite. Elle résolut de tenter ce moyen extrême, puisque c'était là son unique chance de salut. Elle n'avait pas de corde dont elle put se servir pour fabriquer des échelles. Comment faire alors? Elle promena autour de la chambre un regard quêteur et désespéré. Une seule idée lui fut suggérée. C'était qu'elle pourrait peut-être remplacer par les rideaux de damas entassés sur le lit la corde qui lui manquait. Mais ces rideaux étaient ensanglantés. Mais pour les prendre et les déchirer, il fallait sans doute tremper ses mains dans ce sang. Il fallait soulever ce hideux cadavre dont la seule vue la glaçait d'une insurmontable terreur. Pendant longtemps, ce sentiment d'invincible répulsion l'empêcha de mettre son projet à exécution. Parfois même, elle songeait à y renoncer et à s'abandonner au hasard qui venait de la sauver une première fois. L'heure avançait. Déjà, il lui semblait voir une ligne plus lumineuse que le reste du ciel blanchir, s'étendre et monter graduellement à l'horizon lointain. Parfois aussi, elle croyait entendre quelques bruits vagues dans l'intérieur du château. Hébé se disait que parmi les nombreux serviteurs du vieillard, quelques-uns devaient sans doute se lever de bonne heure. Alors, elle retombait dans ses perplexités. Elle revenait à ses projets, qu'elle abandonnait encore le moment d'après. Enfin, entre ces deux épouvantes, celle de se trouver au jour dans cette chambre terrible et celle de s'approcher de cette couche ensanglantée où gisait un cadavre, elle se décida résolument à choisir la dernière. Elle s'approcha du lit. Elle saisit d'une main tremblante le corps inerte du vieillard. Elle le dégagea des épais rideaux qui l'enveloppaient de leurs plis. L'épreuve la plus terrible était subie. Hébé ne s'arrêta pas. À l'aide de ses ongles et de ses dents, elle déchira ses rideaux en quatre parties. Elle noua ses parties les unes avec les autres aussi solidement que le lui permirent ses forces épuisées. Elle se trouva posséder ainsi une espèce de corde de 25 à 30 pieds de longueur. Cette corde lui parut plus que suffisante pour arriver jusqu'au fond du fossé. Cela fait, elle s'habilla à la hâte. Elle traîna dans l'embrasure de la fenêtre la table dont elle s'était servie pour barricader la porte. Elle attacha sa corde au pied de cette table. Ces différentes opérations lui prirent beaucoup de temps. D'abord parce qu'elles étaient très difficiles, ensuite parce que l'anxiété qu'elle éprouvait la rendait maladroite. Enfin, ses préparatifs furent terminés. Elle assujettit son tambour de basse et sa guitare sur ses épaules. Elle recommanda son âme à Dieu. Elle enjamba la balustrade de la fenêtre. Elle saisit la corde à deux mains et elle se laissa glisser dans l'espace. Elle atteignit le sol plus morte que vive, mais sans accident et sans blessure. En s'aidant de ses mains et de ses genoux, elle gravit aussi vite que possible le talus escarpé du fossé. Quelques secondes lui suffirent pour se trouver en rase campagne. Alors, elle se mit à courir de toutes ses forces. Où allait-elle? Elle l'ignorait. Mais elle était certaine qu'elle s'éloignait de ce château maudit. La pauvre enfant bénissait Dieu et n'en demandait pas davantage. Chapitre 9. La sorcière et la pendue. À l'aube naissante, Hébé tomba, épuisée de fatigue, au pied d'un sapin. Elle laissa errer ses regards autour d'elle et crut reconnaître une des routes dans le bois qu'elle avait parcouru avec la mère Rogaume quelques jours auparavant. Mais alors, elles avaient quelques provisions, encore un peu d'argent et enfin elles étaient deux, tandis qu'elles se retrouvaient seules, sans la plus humble pièce de monnaie et à peine garantie du froid par des vêtements souillés et déchirés dans les efforts qu'elle avait faits pour gravir les talus des fossés du château. Elle avait en outre oublié son chapeau dans la chambre maudite et elle se trouvait la tête nue. Sa position était horrible. Elle la vit sans la moindre illusion. Elle se mit à pleurer et pleura longtemps. Ses larmes abondantes la soulagèrent un peu. Elle se sentit plus forte. Il lui sembla qu'elle pouvait continuer sa route. Et elle se remit à marcher. Elle marcha ainsi jusqu'au soir. Quand la nuit vint, les forces lui manquèrent complètement. Elle crut qu'elle allait mourir. Elle s'affaissa sur le sol et perdit connaissance. Elle resta dans cet état pendant plusieurs heures. Au bout de ce temps, elle fut tirée de son évanouissement par le contact de mains rudes et brutales qui la secouaient avec violence. Elle ouvrit les yeux et se vit entourée par une douzaine d'hommes, dont quelques-uns avaient un costume à peu près militaire, et dont les autres portait la livrée du maître. Tous poussaient des cris furieux et de rauques exclamations. Hébé était prisonnière. Sans se préoccuper de son état d'excessive faiblesse, qui rendait de sa part toute tentative d'évasion impossible, on lui lia les pieds et les mains, et on la jeta sur une charrette qui stationnait à quelque distance et dont le cheval, fouetté à outrance, partit aussitôt à une rapide allure. Étendu sur un peu de paille, Hébé, quoique effroyablement cahoté par la lourde charrette, perdit la conscience de son malheur et tomba dans un profond engourdissement. Cet engourdissement ne cessa qu'à la porte de la prison de la ville la plus prochaine. Il était nuit, on délia les pieds et les mains de la jeune fille, on la conduisit dans un cachot obscur et infect dont on referma la porte sur elle. Le lendemain matin, un geôlier lui apporta un pain noir et une cruche d'eau et sortit sans prononcer une parole. Dans la journée, ce geôlier revint. « Suivez-moi, » dit-il. « Où me conduisez-vous ? » demanda Hébé. « Dans la prison commune. Je n'ai pas l'ordre de vous laisser au secret. » Hébé suivit son gardien. Il lui fit traverser un certain nombre de couloirs sombres et malpropres. Puis il ouvrit, à l'aide de l'une des clés qu'il portait en trousseau à sa ceinture, il ouvrit, disons-nous, une porte basse, pourvue d'une serrure gigantesque et presque entièrement doublée en fer. Aussitôt que cette porte eut tourné sur ses gonds criards, on entendit un murmure confus. C'était un mélange de rires, d'imprécations, de malédictions, de sanglots. Ces bruits sinistres épouvantèrent Hébé, qui se demanda dans quel enfer on allait l'introduire. « Passez !» dit le geôlier. Elle entra. La porte se referma derrière elle. La pièce dans laquelle se trouva la malheureuse jeune fille était une salle basse, voûtée, assez vaste. Tout alentour régnait une banquette en bois de chêne, noircie par l'usage. Excepté cette banquette, il n'y avait dans la salle basse aucun meuble. 8 ou 10 femmes se trouvaient là, les unes assises, les autres debout, quelques-unes immobiles, quelques autres marchant à grands pas. Presque toutes ces femmes offraient les types hideux du vice et du crime dans leur plus repoussante laideur. Au moment où Hébé entra, il se fit un grand silence. Les prisonnières parurent l'examiner avec une curiosité malveillante. Sa jeunesse et sa beauté les disposaient à la haïr. « Qu'est-ce qu'elle a donc fait, celle-là ? » se demandait-elle. « Est-ce une voleuse ?»« Je sais qui c'est !» répondit une prisonnière arrivée le matin même. « C'est une drôlesse qui a coupé le cou à un vieux seigneur dont elle était amoureuse. Le geôlier, qui est de mes amis, me l'a dit. « On la pendra ! On la pendra !» crièrent 2 ou 3 mégères. « Au gibet, la belle fille !» Et toutes, ou du moins presque toutes, répétèrent avec une horrible unanimité « Au gibet ! Au gibet !»« Ah ! » dit une créature contrefaite qui avait assassiné une vieille femme pour lui voler quelques misérables pièces d'argent et dont la physionomie ignoble et farouche décelait les instincts infâmes et sanguinaires. « Elle nous aurait regardé du haut de sa grandeur, cependant, pas plus tard qu'hier. Parce que c'est jeune et que ça plaît aux hommes, ça se croit tout permis. »« Elle nous aurait méprisé, » fit une autre. « Crache dessus !» ajouta une troisième. « Et ça n'empêche pas, » reprit la bossue, « qu'aujourd'hui la voilà avec nous. Et qu'on la jugera. Et qu'on la condamnera. Et qu'on la pendra. » Puis les prisonnières reprirent avec un ensemble formidable et un crescendo furibond « Au gibet ! Au gibet, la belle fille !» Et en même temps, elles firent mine de se précipiter sur Hébé. La malheureuse enfant, épouvantée de cette agression inattendue, crut qu'elle allait devenir folle de terreur. Tremblante, éperdue, elle voulut se réfugier dans un des angles de la salle basse, partie obscure où la lumière ne pénétrait qu'à peine. Mais à peine avait-elle fait quelques pas dans cette demi-obscurité qu'elle poussa un cri perçant. Elle venait de sentir une main décharnée saisir son poignet et le serrer avec force. Les jambes d'Hébé ployèrent sous elle, la tête lui tourna et il lui sembla qu'elle allait s'évanouir. Cependant, il n'en fut rien. Une femme qui, jusque-là, était restée assise sur la banquette dans la partie la plus obscure de la salle basse, celle à qui appartenait la main décharnée, se leva lentement, et marchant vers le centre de la pièce, elle attira Hébé sous un des rayons lumineux qui tombait d'une étroite fenêtre garnie de barreaux de fer, et là, Elle attacha sur elle un regard fixe et perçant. Cet examen dura plusieurs secondes. Hébé, à son tour, leva les yeux sur celle qui la contemplait ainsi. C'était une femme de très haute taille et d'une maigreur peu ordinaire. Peut-être jadis avait-elle été belle, alors qu'une chair jeune et dorée recouvrait la charpente osseuse de son corps et les traits de son visage, qui maintenant semblait recouvert d'un parchemin tanné et racorni. Cette femme avait de grands yeux noirs, enfoncés dans des orbites profondes et charbonnées. Par moments, les éclairs d'un feu étrange jaillissaient de ses sombres prunelles. Le nez un peu long et fortement aquilin donnait à son profil une vague ressemblance à celui d'un oiseau de proie. La partie inférieure de sa figure recevait une expression sinistre de ses joues creuses et de sa bouche rentrée en dedans. Le costume que portait cette femme ajoutait encore à l'étrangeté presque effrayante de son apparence. Un mouchoir rouge, en lambeaux, se nouait sur sa tête en affectant une forme de turban. À travers les déchirures nombreuses de cette singulière coiffure, s'échappaient comme des serpents argentés de longues mèches de cheveux gris. Une robe de serge noire, très large et à manches flottantes, enveloppait ce grand corps osseux. Une corde, terminée par plusieurs nœuds, serrait cette robe à la taille. Telle était la femme et tel était le costume. Ils se complétaient en quelque sorte l'un par l'autre. Nous le répétons, elle regardait Hébé avec une surprenante fixité. De son côté, la jeune fille levait sur elle un œil timide et presque suppliant. Les prisonnières avaient fait silence et formaient le cercle. Mais ce silence leur pesait. « Voyez donc !» s'écria l'une d'elles. « Voyez donc la sorcière et la pendue qui s'examinent pour se reconnaître au sabbat !» Un éclat de rire formidable accueillit cette horrible plaisanterie. Encouragée par cette approbation bruyante et non équivoque, la prisonnière reprit. « Il faut que la mère Moloch dise la bonne aventure à la pendue !»« Oui, oui !» répondirent plusieurs voix. « La bonne aventure !» Hébé tremblait de tous ses membres. La bossue, car c'était elle qui venait de parler deux fois, poursuivit. « Mère Moloch, dis-lui dans combien de jours elle dansera entre ciel et terre, en tirant la langue au bout d'une corde de chanvre. »« Dis-lui cela, Mère Moloch !» s'écria une autre. « Et pour ta peine, elle te donnera un morceau de sa corde, ce qui te portera bonheur. »« En attendant qu'on t'en donne une toute entière et toute neuve, exprès pour toi. » « Une corde à la mère Moloch ?» répliqua la bossue. « Y pensez-vous ? Pourquoi donc pas ? Une corde ? Vous voulez dire un fagot ? On ne pend pas les sorcières, on les brûle. »« C'est vrai, c'est vrai !» Puis les prisonnières reprirent en chœur. « Au fagot, la mère Moloch ! Au gibet, la belle-fille !» Et à ces cris succédèrent ceux-ci. « La bonne aventure à la pendue !» Cet infernal charivari fut interrompu soudainement. La femme grande et maigre qu'on appelait la mère Moloch, et à laquelle on décernait le titre de sorcière, fit deux pas en avant, fronça le sourcil, regarda d'un air menaçant les prisonnières qui l'entouraient et étendit la main. La sorcellerie inspirait à cette époque une terreur instinctive si puissante que toutes les femmes, redoutant quelques maléfices, reculèrent et se turent. La mère Moloch allait parler. Mais elle n'en eut pas le temps. Trois ou quatre geôliers entrèrent dans la salle basse. L'heure était venue de reconduire les prisonnières dans les cachots où elles passaient la nuit, deux ou trois ensemble et quelquefois plus. Jusqu'à ce jour, la mère Moloch avait été seule. Et Bé, comme la dernière venue, fut désignée pour partager son cabanon. L'idée de se trouver seule dans une obscurité profonde avec cette effrayante créature sembla à Hébé 100 fois pire que la mort. Elle demanda à être remise dans son premier cachot. Elle pria, elle pleura, elle supplia. Ce fut en vain. On ne lui répondit que par un rire ironique et brutal. Et on l'enferma avec la sorcière.